France Inter. France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
Vous vous réveillez chaque jour avec votre mal de dos, vous déjeunez avec votre mal au ventre, vous vous couchez avec vos migraines. Une souffrance plus ou moins sourde qui ne vous laisse aucun répit. Vous pensez être seul ? 23 millions de Français disent souffrir de douleurs chroniques, soit 1 sur 4. C'est le résultat stupéfiant du premier baromètre de la douleur mené par la Fondation de Recherche Analgésia. Parce que nous sommes de plus en plus sédentaires, que la population vieillit, mais gare aux raccourcis, l'âge moyen des patients c'est 46 ans. La douleur chronique, c'est celle par définition qui dure plus de 3 mois. Vous avez entendu parler de fibromyalgie, d'endométriose, mais d'où vient-elle cette douleur? Pourquoi est-elle si mal diagnostiquée? Quelle est sa part psychologique? Comment la prendre en charge? Électrostimulation, thérapie comportementale? Souvent, on ne sait pas quoi faire. Et près de 9 personnes sur 10 font de l'automédication faute de mieux. Ces douleurs épuisent, dépriment, angoissent, isolent. Sois sage ô ma douleur et tiens-toi plus tranquille, écrivait Baudelaire. Alors ces douleurs comptaient. Eh bien on va les poser là ce soir et en discuter tous ensemble.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Bonsoir Marion.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue.
Merci.
Nous vous écoutons.
Écoutez, moi j'ai 35 ans, j'ai eu des douleurs chroniques pendant 10 ans, alors que chronique entre guillemets, j'ai vu des dizaines de médecins dans beaucoup de villes différentes pour essayer de soulager cette douleur. Cette douleur n'a pas été soulagée du tout pendant les 10 années. Pendant 10 ans, j'ai peut-être seulement 3 médecins qui ont réellement essayé de chercher un diagnostic à ces douleurs. On a tout le temps arrivé en fait que c'était dans ma tête, que j'étais trop
stressée. C'était quel type de douleur, Marion? Pour qu'on puisse situer un peu.
Thoracique gauche, dorsale gauche, on se vraiment en parallèle, et le bras. Et en fait, ça me faisait vraiment comme des coups de poignard, des tiraillements. Je passais 10 ans sans dormir. Et c'était très handicapant, en plus au quotidien, parce que ça, en fait, j'avais tout le temps mal entre 6 et 10, on va dire, et quand j'étais entre 9 et 10, j'étais alitée. Mm-hmm. Et en fait, on m'a tout le temps dit que c'était dans ma tête, le reste du temps, que c'était dans ma tête, parce que j'étais une femme, que j'étais certainement trop stressée.
Parce que vous étiez une femme?
Oui,
on m'a intéressant.
Dit que j'étais aussi très égocentrée. Un panel de mots qui sont très violents quand on souffre quotidiennement et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Et en fait, tout ça pour dire que, après des explorations grâce à un ostéopathe qui m'a fait faire du forcing auprès d'un médecin, il a été diagnostiqué au mois de juin. C'était en fait un syndrome du défilé thoracobrachial. En bref, c'était juste une malformation structurelle du corps. Et en fait, j'avais ma première côte et un muscle qui compressait mon artère sous-clavière à 80%.
D'accord. Donc,
en fait, on a dû me retirer ça. Et en fait, ce n'était pas une douleur chronique, mais c'est juste les médecins qui ne m'ont pas écouté pendant 10 ans.
Et depuis, ça va très bien?
Alors, depuis, je suis en convalescence, mais ça va, pour la première fois, ça va aller pour du mieux. Donc voilà, c'était juste pour dire que c'est très compliqué. Ouais, je pense, quand on est une femme, déjà, quand on se creuse quotidiennement, c'est très dur. Et en plus, je pense qu'on est très mal écoutés, malheureusement. Mmh. Mais il y en a qui font très bien leur métier, par contre.
On va en parler tous ensemble. Et vous avez bien résumé le débat qui va nous occuper ce soir. Bonsoir Nadine Attal.
Bonsoir.
Merci d'être en studio avec nous. Je vous ai vu réagir plein de fois sur le témoignage de Marion. On va y venir. Vous êtes neurologue, professeur de thérapeutique et de médecine de la douleur à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, responsable du centre d'évaluation et de traitement de la douleur de l'hôpital Ambroise-Paré. Et nous sommes en ligne avec le professeur Nicolas Autier.
Bonsoir.
Bonsoir, professeur, médecin, psychiatre et pharmacologue, président de l'Institut Analgésia, qui avait justement commandé cette étude, on va y venir. Vous êtes en direct de Bayonne et on remercie au passage nos collègues d'ici Pays Basque. Je commence avec vous, Nadine Attal. C'est assez effrayant ce qu'elle raconte, Marion. 10 ans avant d'obtenir un diagnostic.
Oui, c'est tout à fait effrayant parce que, effectivement, je crois que le problème vient du fait qu'on ne l'a pas suffisamment écouté. Là, il y a eu manifestement un défaut de diagnostic. C'est une pathologie qui n'est pas si rare. C'est une pathologie qu'on connaît, qui a été décrite évidemment et qu'on connaît que les rhumatologues, les neurologues et même les médecins généralistes connaissent généralement. Mais il faut poser les bonnes questions. Et effectivement, le diagnostic de la nature d'une douleur repose quand même avant tout sur l'interrogatoire. Et donc, effectivement, poser les bonnes questions aux patients sur notamment la nature des symptômes qu'ils présentent, les facteurs déclenchants, aggravants, qui améliorent la douleur, par exemple, dans son cas, peut-être le fait de lever le bras. Et donc, il est très regrettable et très triste de penser qu'elle a effectivement souffert pendant 10 ans sans qu'aucun diagnostic n'ait pu être porté et qu'enfin elle ait pu s'en sortir grâce à une intervention. Oui, c'est tout à fait regrettable. C'est peut-être, ça témoigne peut-être d'un défaut aussi d'enseignement, d'éducation,
ouais, ça, on va y venir.
Des médecins, de certains médecins, même si les choses ont évolué favorablement ces dernières années tout de même avec les étudiants en médecine.
Professeur Autier, qu'est-ce que ça vous inspire le témoignage de Marion? On est au cœur du sujet quand même.
Oui, ça inspire effectivement beaucoup d'humilité quand on est un professionnel de santé, parce qu'on ne sait pas tout. Et qu'il faut savoir le dire aussi lorsqu'on ne sait pas tout et pas reporter la faute ou créer une culpabilité chez le patient. Le patient, il a une souffrance. Notre rôle, c'est d'abord de l'écouter. C'est la première des étapes. Et puis ensuite, de ne pas remettre en cause cette souffrance, souffrance dans sa chair et puis dans sa tête. Évidemment que ça finit toujours par passer par la tête, la douleur. Hein, ça ne vient pas forcément de la tête, mais ça passe par la tête à un moment donné.
Ça atteint le moral à un moment.
Et, évidemment. Donc, et c'est bien même parfois ce qui prend le dessus, presque sur la douleur initiale. Donc ça montre aussi toutes les limites que l'on a actuellement dans l'accompagnement de certaines douleurs pour lesquelles les diagnostics sont parfois difficiles. C'était pas forcément le cas de celle-là, cette situation-là, mais ça peut arriver, des douleurs complexes, des douleurs mixtes, etc. Et puis, et les limites de la médecine, on est dans une situation, nous, dans la douleur, où on n'a pas beaucoup d'innovation thérapeutique, et donc on n'a pas beaucoup parfois de solutions à proposer. Quand tout a été essayé, on est face à de nombreux patients qui sont dans des situations réfractaires, d'impasse thérapeutique, avec une souffrance majeure et une altération très importante de leur qualité de vie.
Alors, professeur Autier, c'est vous qui avez mené cette étude hein, en tant que président de l'Institut Analgésia, sur laquelle on a décidé de faire cette émission. 4 Français sur 10 qui souffrent de douleurs chroniques, c'est-à-dire qui durent plus de 3 mois, c'est un chiffre qui nous paraît absolument fou. Vous avez été surpris, vous aussi, par ce résultat ?
Oui, on a été surpris. Le dernier chiffre dont on disposait, que connaît bien ma collègue professeure Nadine Attal, était de 31% sur des données de 2004 publiées en 2008, si je me trompe pas. Et effectivement, on a une augmentation de ce chiffre. 31%, c'était déjà beaucoup. Hein.
Déjà
42,
énorme.
C'est encore plus. 42% de 55 millions de Français, ça fait 23 millions de Français qui disent vivre avec une douleur chronique, c'est-à-dire depuis quasiment quotidienne, ça dépend du type de douleur, depuis au moins 3 mois.
Nadine Attal, vous aussi, vous avez été surprise par ce résultat ?
Alors, effectivement, nous avions fait en 2008 avec Didier Boissira une enquête sur un panel de 30 000 personnes qui avaient été interrogées pour évaluer la fréquence et la prévalence de la douleur chronique. Ce chiffre était plus faible. Je connais pas les détails parce que l'enquête du professeur Autier n'est pas encore publiée. J'ai vu les rapports de presse, surtout. Il y a pas mal de facteurs. En tout cas, ce qui est important aussi, c'est pas seulement la prévalence de la douleur, c'est aussi la prévalence de la douleur au moins modérée. Ce qu'on appelle une douleur au moins modérée, c'est une douleur d'intensité modérée à sévère. Il y a des douleurs faibles, heureusement, qui sont par exemple...
Ça, c'est sur l'échelle de 1 à 10.
Voilà. La dame, tout à l'heure, parlait de douleurs entre 6 et 10, ou 6 et 9. C'est énorme. Donc, effectivement, ce qui est important, en fait, sur le plan clinique, c'est aussi la prévalence des douleurs modérées à sévères. Parce que les douleurs faibles, ça existe, c'est heureusement moins grave quand même. Elles ne nécessitent pas toutes une évaluation en structure douleur chronique, par exemple. Donc là, je pense qu'il y a des chiffres, mais le professeur Autier les connaît mieux que moi, qu'il faut peut-être affiner. Mais effectivement, c'est un chiffre très élevé.
Moi, j'aimerais juste savoir, professeur Autier, après on va repasser au standard, pourquoi il y a de plus en plus de gens qui souffrent de douleurs chroniques ? Parce qu'on vieillit, mais ce n'est pas la seule explication.
Le vieillissement peut être une explication, bien entendu, et puis à l'augmentation du coût du nombre de certaines maladies chroniques associées à des douleurs, par exemple. Mais on voit que l'âge moyen de notre population, il est de 46 ans.
Mais oui, 46 ans.
Donc c'est plutôt une population qu'on peut considérer comme jeune, évidemment. Donc il y a aussi, parmi ces douleurs, des douleurs qui sont très fréquentes, et les plus fréquentes, ce sont les lombalgies chroniques. Et là, on peut évoquer les problématiques de sédentarité. Donc on sait que c'est croissant dans notre pays, enfin en Europe en général, hein, mais on est de plus en plus sédentaire, et donc ça favorise aussi l'apparition de certaines douleurs, et ça complique leur disparition, on va dire, aussi. Et il y a aussi peut-être aussi une parole qui est un peu plus, je dirais, libérée sur la douleur, avec depuis quelques années. Maintenant, on parle de plus en plus de cette douleur chronique. Les médias y participent beaucoup. Et il est possible que les patients aient moins de difficultés et peut-être moins de
culpabilité
à se confier, à le dire, à dire j'ai mal. Voilà, j'ai mal. Et pas avoir envie de souffrir en silence, parce que souffrir en silence, ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens, surtout. Et donc, peut-être qu'il y a plusieurs facteurs comme ça qui, les uns associés aux autres, expliquent que ce chiffre a pu augmenter, mais ce sont des hypothèses.
Mmh. Bonsoir, Louise.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, nous vous écoutons.
Merci. Alors, moi, je vais vous parler de ma propre névralgie qui a commencé quand j'avais 14 ans et qui a été reconnue quand j'avais 41 ans. Je pense que vous entendiez peut-être l'émotion dans ma voix. Mmh. Les médecins n'entendaient pas. Grâce à la psychothérapie, à la sophrologie, à un régime strict, à une hygiène de vie pas possible, ça est allé beaucoup mieux. Et puis, j'ai eu la mononucléose il y a 3 ans. Après, j'ai été enceinte, j'ai eu un bébé absolument merveilleux. Et l'accouchement a relancé les douleurs puissance 10 000. Donc avant, j'étais en crise une fois tous les 2 ans, 1 mois. Et maintenant, je suis en crise en permanence. Et le postpartum avec des douleurs qui vont de 7 à 10 tous les jours, c'était épouvantable en France. Et j'en veux terriblement à certains soignants qui voulaient absolument me faire du sport pour que je me remuscle, alors qu'en fait, moi, je voulais juste être massée, être aidée. Et je ne sais pas si ça a peut-être déjà été évoqué, mais quand vous parlez des traitements, moi, je ne supporte pas très bien les traitements médicamenteux. Donc, j'ai des médicaments qui me provoquent des bad trips. Donc, je ne sais pas si vous voyez les bad trips, vous voyez des éléphants roses pendant 48 heures avec une petite fille à la maison. Bah, il faut que je prenne des jours de congé, il faut que mon mari soit en congé aussi. Et ça, c'est pas, on n'a pas du tout non seulement de reconnaissance, mais on n'a pas d'aide non plus. Et moi, j'ai l'impression que quand même, c'est moi qui me suis battue pour aller mieux, c'est moi qui ai sollicité tous les médecins que je connaissais. Et j'ai trouvé des soignantes qui peut-être m'écoutent ce soir et que je remercie, mais il n'y en a que 3 sur les 50 médecins que j'ai vus, quoi, qui ont entendu, qui me font aller mieux. Et tout à l'heure, dans ce que j'appelle la bande-annonce vers 18h, vous avez dit que les patients s'isolaient. Mais on ne s'isole pas, c'est la maladie qui s'isole.
Oui, bien sûr. Moi, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a même plus envie d'en parler parce que c'est tout le temps. Et les autres autour de nous n'ont pas forcément envie de l'entendre non plus.
Non, et puis les gens ne comprennent pas, mais moi je ne peux pas m'habiller seule certains jours. Je ne vais pas inviter des gens, je ne peux pas rendre les invitations, les gens ne nous invitent plus, c'est un cercle vicieux. Et la formulation « les patients s'isolent » m'énerve, parce que je rêverais d'avoir une vie sociale.
Bien
je rêverais d'avoir des amis, voilà. Mais ça ne marche plus. Oui. Et c'est plus facile d'en parler aux nouveaux amis qui ne connaissent que malades.
Oui.
Tandis que avant, moi j'ai le sourire, j'ai des grandes boucles d'oreilles, je suis voilà. J'ai pas une tête de malade, mais si j'avais écrit handicapé.
Oui, mais c'est une douleur invisible et c'est ça en fait le problème. Quand on est malade, par exemple, quand on a un cancer, bah, ça se voit, donc c'est plus lisible. Voilà. Là, ça ne l'est pas. Merci Louise. Nadine Attal.
Tout d'abord, merci pour votre témoignage. Vous avez touché du doigt énormément de choses.
Il y a beaucoup de choses,
Oui. Je pense qu'on ne pourra pas tout aborder. C'est tout à fait important. Moi, je ne connais pas, je ne vous connais pas, je ne vois pas, je ne peux pas vous donner le diagnostic dans l'immédiat, mais je peux déjà vous dire qu'il y a des structures douleurs chroniques. On pourrait même vous donner des noms à la fin de l'émission, parce que ça dépend de votre lieu de résidence, mais nous, on les connaît bien sûr, qui peuvent vous aider. Ça, c'est évident, première chose. Et ces personnes qui s'occupent de ces structures et qui travaillent dans ces structures, elles sont là pour vous écouter. C'est leur mission. Numéro 1. Hein. Mm-hmm. Donc ça, c'est très important. La deuxième chose très importante que vous avez soulignée, c'est effectivement le côté entre guillemets handicap invisible. Ça, c'est une notion extrêmement importante parce que la douleur chronique, pas comme la douleur aiguë, d'ailleurs, la douleur chronique, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas sur la personne. On peut avoir une douleur chronique sans en avoir forcément des symptômes visibles, en tout cas des signes, par exemple, où on n'a pas forcément un rictus, une grimace. Hein. Donc les patients ne sont pas effectivement à l'évidence douloureux. Ça ne se voit pas de l'extérieur, c'est ce qu'on appelle en anglais, on dit patient reported outcome, c'est-à-dire que c'est subjectif, c'est ce que les patients rapportent. Donc les médecins doivent effectivement les écouter et bien entendu, on n'invente pas une douleur, très 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 rare. Donc en fait, il faut effectivement écouter les patients, donc ça c'est très important, handicap invisible. Et l'autre chose que vous avez dite aussi sur la prise en charge, oui, on a beaucoup de patients, il n'y a pas que vous, qui ne supportent pas les médicaments. ça existe, ou qui n'en veulent pas, ça peut arriver. Dans le domaine de la douleur chronique, on a à disposition quand
voilà,
même...
Voilà, j'allais vous demander, qu'est-ce qu'il y a comme médicament à votre disposition ?
Alors, on a des médicaments, il y en a aussi des approches non pharmacologiques. Et il faut développer tout en parallèle, parce que la douleur chronique, la prise en charge de la douleur chronique, c'est ce qu'on appelle une approche, bah, nécessite une approche multimodale. C'est-à-dire qu'on va utiliser plusieurs moyens à notre disposition en parallèle. On utilise des traitements pharmacologiques, quand c'est nécessaire et bien toléré par les patients, et on couple souvent ça à des traitements non pharmacologiques qui peuvent être, comme l'a dit madame, hein, certaines psychothérapies, qui peuvent être des techniques dites complémentaires, comme la relaxation, l'hypnose, et qui peuvent être des techniques de neuromodulation. Mmh. Et quant aux médicaments, il y en a beaucoup. Je pourrais les aborder, mais je n'ai pas forcément envie d'être trop longue.
Non, mais professeur Autier va certainement nous en parler, professeur, puisque vous êtes à la fois psychiatre et pharmacologue.
Oui, les médicaments, il y en a un certain nombre, effectivement, mais il n'y a rien de très nouveau dans ce domaine-là. Dans le domaine du médicament, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on n'a pas eu réellement d'innovation pharmacologique, et donc de nouveaux médicaments proposés, bien que la recherche explore de nombreuses cibles thérapeutiques. Alors, ces médicaments, ils permettent parfois de faire une partie du chemin, mais il ne faut jamais en attendre la solution miraculeuse ou qui va permettre de faire disparaître totalement cette douleur.
Non, mais au moins rendre les choses supportables.
Elles permettent de rendre les choses un peu moins insupportables,
oui.
Et elles permettent de mieux vivre avec sa douleur, et elles permettent d'avoir accès justement aussi à toutes ces stratégies non médicamenteuses qui étaient évoquées par Nadine Attal. Mmh. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous mettre dans une stratégie de psychothérapie de type thérapie cognitivo-comportementale, ce qu'on appelle les TCC.
Vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement, les thérapies cognitives
C'est des thérapies brèves, hein, c'est par opposition un peu à la psychanalyse, de la psychothérapie brève sur quelques semaines, environ 3 mois, pour laquelle on va travailler sur les différentes pensées que l'on a en lien avec la douleur, en l'occurrence, parce que ça peut s'appliquer à d'autres choses, hein, ça peut s'appliquer à l'anxiété, etc. Et on va essayer de modifier ce schéma de pensée. On va essayer de travailler sur les peurs, sur les craintes, on va essayer... Et c'est le patient, en fait, qui fait tout le travail. En fait, nous, on l'accompagne. Ça demande un investissement assez important. Ça demande aussi des rendez-vous réguliers, toutes les semaines, en théorie, lorsqu'on fait ce type de thérapeutique. Alors, tout le monde n'y a pas forcément accès. Tout le monde n'aime pas forcément ce type de thérapeutique. Mais tout le monde n'y a pas toujours accès. Ça peut nécessiter parfois aussi des investissements financiers, si vous n'êtes pas suivi à l'hôpital. Donc, il y a toute une question autour des traitements, qui est la question de l'accessibilité à ces traitements. Je pense qu'il n'y a pas une équité.
Qui coûte cher, c'est ça ?
Ouais, c'est-à-dire, si vous êtes suivi par un psychothérapeute, on va dire en ville, il y a une grande partie. Parfois, il peut y avoir un petit remboursement dans le cas de Mon Psy, Ma Santé.
Oui.
Mais quoi qu'il en soit, il y aura toujours quelque chose de supplémentaire, ou alors il n'y aura rien de pris en charge. Et donc, ça peut demander un investissement financier, ce qui n'est pas toujours possible pour nos patients qui, à cause de leur douleur chronique, se retrouvent parfois dans des situations de précarité importantes.
Nadine Attal, vous souhaitiez réagir.
Je compléterais juste en disant que ce n'est pas tant un problème financier qu'un problème de formation des médecins. En France, contrairement aux pays anglo-saxons, les psychologues et les psychiatres ne sont pas tous formés à ces thérapies. C'est une thérapie surtout issue du monde anglo-saxon, évidemment qui se développe énormément en France, mais qui n'est pas encore aussi développée que dans certains pays. Donc c'est un problème plutôt d'offres qui est insuffisante, Il y a des associations, mais etc. Pour rebondir sur les traitements, je voudrais quand même dire un mot des traitements pharmacologiques, puisque finalement ça a été évoqué un peu rapidement.
Bah oui, mais
ce qui est très important, c'est que dans la douleur aiguë, les traitements marchent souvent très bien. Les traitements marchent souvent très bien et on peut se servir, y compris dans la douleur aiguë, hein, c'est-à-dire qui ne dure pas, justement.
C'est-à-dire les opiacés ?
On peut se servir des opiacés éventuellement dans la douleur aiguë.
Oui.
Et dans la douleur chronique, on se sert de plus en plus de tout ce qui n'est pas opiacé, à cause aussi des effets indésirables. On a beaucoup aussi évoqué la crise des opiacés, hein, qui est un phénomène nord-américain, mais qui a quand même eu des retombées partout. Et on se sert énormément de traitements de type, ce qu'on appelle les psychotropes au sens large, certains antidépresseurs, certains antiépileptiques, qui sont initialement utilisés pour d'autres indications. Et on se sert aussi quand même pas mal de traitements locaux, topiques, qu'on appelle topiques, des traitements qu'on applique sur la peau et qui ont plusieurs types de... Il y a plusieurs types de traitements dits topiques.
Oui, j'ai entendu parler de ça, de traitements au piment, par exemple.
Oui, par exemple, très bien.
Mais alors, expliquez-moi, parce que ça me fascine, expliquez-moi ce que ça déclenche dans le cerveau. C'est-à-dire, ça découple dans le cerveau, ça découple la douleur.
Vous voulez parler du piment ?
Oui, par exemple.
Le piment, c'est un très ancien analgésique, puisque les Indiens le connaissaient. Donc, c'est un des analgésiques les plus anciens, le piment. Il y a ce qui est relativement récent, et ça s'appelle du repositionnement, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on utilise le même piment, mais on le repositionne et on met des concentrations beaucoup plus élevées. Et donc, on a des patchs de ce qu'on appelle du piment, le piment de très haute concentration. C'est un terme un peu compliqué qui s'appelle capsaïcine. C'est cela, le principe actif du piment. Et qui agit, en fait, sur des récepteurs spécifique de la douleur qui se situe sur les nocicepteurs, donc sur les récepteurs de la douleur. Ce piment va dans un premier temps avoir un effet type piment, c'est-à-dire qu'il va exciter ces récepteurs dans un premier temps, et d'ailleurs c'est l'effet du piment, l'harissa. Hein,
oui, oui, oui.
Et dans un ça second pique. Temps, il va y avoir au contraire une, c'est un terme un peu complexe, mais une diminution de la fonction de ces récepteurs, donc dans un second temps, au bout de quelques jours, qui vont être complètement défonctionnalisés, qui vont moins bien travailler et qui vont être mis au repos. Et cet effet de défonctionnalisation est concomitant d'un effet antidouleur analgésique, donc antidouleur, qui va durer après application de ces patchs pendant environ 3 mois. Voilà,
oui,
ça c'est intéressant.
Le
principe actif n'est pas nouveau, mais le conditionnement est intéressant.
Bonsoir François.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Écoutez, moi je veux juste évoquer la douleur que j'ai depuis 2016, qui en fait ce sont des acouphènes. Des acouphènes qui entraînent des maux de tête. Bon, j'ai fait toutes les batteries de tests à l'Institut de l'oreille, de l'audition à Paris dans le 15e. Ils n'ont pu que constater que j'avais des acouphènes, effectivement. Mais il n'y a rien qui n'est fait contre ça. Personne ne se penche sur le sujet. Aucune recherche ne sont faites. Voilà, totalement démunis.
Et là, vous ne savez pas quoi faire, en fait.
Ah ben voilà.
À part en parler, comme ce soir, et c'est bien que vous le fassiez, parce que je pense que vous n'êtes pas le seul.
Je pense qu'on est des milliers de Français dans ce cas-là.
Ah oui, 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 je pense qu'il y a beaucoup.
Personne ne fait rien.
Alors, est-ce que personne ne fait rien ? Nadine Attal n'est pas tout à fait d'accord avec vous, évidemment, François.
Non, mais c'est un vrai problème. Alors, il y a plusieurs types d'acouphènes, mais les acouphènes chroniques... Alors, bien sûr, souvent, les acouphènes accompagnent aussi une diminution de la perception, de l'audition, ça, c'est sûr. Après, il y a un certain nombre de personnes qui ont des acouphènes chroniques. Et d'abord, première chose, il y a des spécialistes des acouphènes en France. Ce ne sont pas forcément des personnes impliquées dans la douleur en tant que telle, bien qu'on puisse considérer que les acouphènes, c'est une sorte de douleur de l'oreille. Hein. Ce n'est pas tout à fait de la douleur, mais les mécanismes sont similaires à certaines douleurs neurologiques. Et les traitements, d'ailleurs, sont très proches. Et donc, moi, je connais, enfin, je ne vais pas vous donner de nom, mais je connais des ORL qui sont spécialisés dans les acouphènes à Paris et qui prennent en charge les acouphènes. Donc, ça existe. Ce n'est pas tous les ORL, mais la plupart, quand même, connaissent. Et un certain nombre d'ORL prennent en charge spécifiquement les acouphènes. Et il y a des techniques de prise en charge, outre le fait déjà de travailler sur la modulation. Par exemple, on sait que les acouphènes sont bien pires lorsqu'il y a du silence et ils sont moindres quand il y a de la musique ou quand il y a du bruit. Ça, c'est des techniques. Et des expositions à la musique ou au bruit. Il y a des techniques comme la stimulation magnétique transcrânienne, par exemple, qui se font pour les acouphènes.
Merci aussi à François d'être intervenu. On poursuit cette conversation avec Paul, qui est à Strasbourg. Bonsoir, Paul.
Oui, bonjour. Donc, moi, j'ai 66 ans. J'ai des problèmes de dos depuis, on va dire, depuis tout petit. Et j'ai trouvé des alternatives, on va dire, entre les rendez-vous médecin et kiné, ça c'est une chose, mais des douleurs qui peuvent revenir, soit lombalgiques, soit sciatiques comme j'ai aujourd'hui. Et ben, ce que je fais un quart d'heure gymnastique tous les matins.
Oui.
C'est devenu une routine, on va dire, et ça me permet d'éviter d'avoir des lombalgiques déjà. Perdre du poids, c'est une chose, c'est moins facile. Donc la gymnastique, le vélo m'a aidé ou m'aide énormément, le vélo, le cyclisme, je ne parle pas de compétition, le vélo, et le fait de pouvoir faire aussi, quand je peux faire de l'ayurveda, si je joue au Sri Lanka de temps en temps, d'utiliser des techniques, méthodes, on va dire, de l'Inde ou chinoise, ou de prendre des médicaments naturels quand on peut. Mais j'essaie de trouver des remèdes au niveau de la gymnastique par moi-même, quoi. Sinon, je vais prendre du kétoprofène.
Alors, le sport, professeur Autier, c'est très important.
Pour certaines douleurs, c'est effectivement le premier des traitements. Et là, on a l'exemple de la lombalgie chronique. Alors, je n'ai pas le détail exactement sur la pathologie, mais il y a une lombalgie et peut-être des douleurs neuropathiques associées. En tout cas, la première des recommandations dans ce type de douleur, ce ne sont pas de prendre des médicaments, c'est oui. effectivement d'avoir une activité physique. C'est pour ça que je parlais de sédentarité tout à l'heure. Activité physique qu'on va qualifier d'adaptée, c'est pas du sport, hein. C'est pas forcément faire du sport. On va pas demander aux gens de faire du sport. Et chacun va le faire à son niveau, va refaire ça progressivement. Ça peut refaire un peu de piscine, de vélo, marcher, des choses simples. Hein. Mmh. Mais en tout cas, il faut lutter contre un phénomène qui est extrêmement fréquent dans la douleur, et particulièrement dans la lombalgie, qui s'appelle la kinésiophobie, la peur du mouvement. Et finalement, de manière intuitive, lorsqu'on a mal, on a mal au dos, on ne bouge pas, en fait, mais parce qu'on a peur d'avoir mal.
En fait,
de manière contre-intuitive, en fait, il faut essayer de bouger, peu importe si on bouge beaucoup ou pas, mais il faut essayer de bouger, parce que c'est ce qui permettra de diminuer, voire de faire disparaître ce mal de dos, c'est de bouger. Mmh. Et donc, le mouvement est capital.
Alors, bonsoir Rémi Ollier.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous. On a voulu que vous soyez en ligne avec nous ce soir parce que vous êtes kinésithérapeute spécialisé dans la prise en charge justement des douleurs chroniques. Vous êtes membre de la Société française d'études et de traitement de la douleur. La kinésiophobie, ça vous parle évidemment ?
Oui, ça parle énormément. Effectivement, ça fait partie des facteurs que l'on retrouve, des facteurs limitants en fait, et puis qui font en sorte que le patient va finalement, parfois même avec une même douleur, plus souffrir. Mmh. Et voilà, il y en a bien d'autres, hein. Le sommeil a tendance à augmenter aussi la souffrance, certaines pensées catastrophistes. Et effectivement, le rôle de la prise en charge en kinésithérapie, il se limite pas simplement au mouvement. Et j'apprécie beaucoup les précautions que prend le professeur Nicolas Autier quand il parle d'activité physique ou de sport. Effectivement, le but, c'est pas toujours d'amener les patients directement au sport, mais d'amener des mouvements qui ont du sens pour le patient. Voilà, et donc du coup, on doit prendre en compte l'ensemble des pensées, des émotions, des
mais alors ça, vous aussi, en tant que kinésithérapeute, vous avez cette dimension-là qui est plus psychologique dans votre pratique ?
Oui, on a en fait maintenant, enfin, tout professionnel de santé doit prendre en charge globalement le patient. Et la douleur, ce n'est pas qu'une composante biologique. La douleur varie en fonction des pensées, des émotions, des comportements. Et ça, tout professionnel de santé doit le prendre en compte. Mmh. Nous, on a un outil en kinésithérapie qui s'appelle l'éducation à la douleur, qui permet en fait aux patients de mieux prendre conscience que justement que la douleur n'est pas forcément due qu'à l'arthrose ou qu'à un problème de disque, mais que justement ses comportements et son sommeil et ses pensées ont une influence sur son vécu douloureux. Et ça permet ensuite que le patient se sente plus efficace dans sa prise en charge, qu'il puisse lui-même mieux faire avec sa douleur. Parce qu'il est bien question de ça en fait quand on parle de douleur.
C'est-à-dire qu'il est question de vivre avec cette douleur aussi.
Oui. Oui. C'est vrai que quand on parle de douleur aiguë, on parle plus facilement de diminuer la douleur, voire même de la stopper. Quand on est sur des douleurs chroniques, voire primaires, comme selon l'OMS l'a défini, en fait, on est sur quelque chose de bien plus complexe où tout est imbriqué. Et l'idée, c'est que le patient apprenne à faire avec. C'est parfois un shift important à faire dans la rééducation. Mais on sait que c'est ce qui va aider le patient. Mais il est vrai que c'est pas toujours évident parce que, par exemple, quand on est un professionnel libéral, on est amené à parler de problématiques psychologiques ou sociales. C'est vrai qu'on n'a pas de sociologue ce soir ou d'assistante sociale avec nous, mais la problématique sociale est très importante. Et cette notion d'interdisciplinarité, et ce soir, on n'en a pas encore parlé, est capitale. Mais malheureusement, on a en fait, notamment en libéral, pas de possibilité d'être payé pour un côté interdisciplinaire. Donc, si je prends du temps, moi, pour faire des courriers aux médecins de structure douleur chronique ou pour appeler un médecin parce que j'ai un patient qui ne va pas bien, qui a besoin d'un relais, d'un psychologue ou du médecin généraliste, c'est un temps qui ne sera pas rémunéré. Et ça, je pense que ça pose souci, hein, sachant que je vais juste le placer, mais c'est vrai qu'actuellement, un kiné est payé, en fait, l'acte le plus courant, c'est 16,57 euros pour une demi-heure. Et c'est vrai que du coup, forcément, si on demande en plus de passer du temps sur l'interdisciplinarité...
Mais bien sûr, ça devient compliqué, j'entends bien. Professeur Autier, il y a des centres de la douleur, justement, où on retrouve cette interdisciplinarité, j'essaie de le dire correctement.
Ouais, c'est la raison d'être même d'une structure douleur chronique. Il y en a 274 en France.
Ça veut dire qu'il y a quand même un bon maillage, 274, non ?
Oui, il y a un bon maillage, je ne veux pas le nier, bien entendu, mais il faut mettre face à cela, effectivement, des millions de Français qui pourraient avoir besoin d'un avis spécialisé ou parfois d'un suivi. Comme le disait Nadine Attal tout à l'heure, bien sûr, ce ne sont pas des patients qui ont des douleurs légères, mais la moitié de ces 23 millions de Français ont une douleur sévère, c'est-à-dire 7 à supérieur à 7. Donc ça fait déjà quand même, vous voyez, plus de 10 millions. Et donc, ces structures-là n'ont pas toujours la capacité de voir tous ces patients ou de les voir assez tôt, en fait, parce qu'il y a tout un challenge qui consisterait à voir ces patients-là le plus tôt possible lorsque le diagnostic de douleur chronique est porté, ou au moins pour le préciser, s'il est un peu complexe, et pour éviter des escalades thérapeutiques avec des médicaments qui ne seraient pas indiqués et proposer peut-être des stratégies thérapeutiques qui sont disponibles à l'hôpital, proposer un avis psychologique, proposer un avis social si on en a besoin, proposer un avis par un kiné, proposer des prescriptions de neurostimulation, etc. etc.
Les voir le plus tôt possible, Nadine Attal, vous confirmez ?
Je suis tout à fait d'accord. Il y a effectivement un grand nombre de structures douleurs chroniques en France. On a d'ailleurs une spécificité à cet égard par rapport à d'autres pays, notamment même d'autres pays européens, où on a vraiment une spécificité. C'est la France est un des pays où il y a vraiment une prise en charge de la douleur dans ces structures douleurs chroniques qui sont multidisciplinaires et pluriprofessionnelles et qui comportent effectivement souvent des psychologues, des psychiatres, quelquefois des kinésithérapeutes, des médecins de rééducation. Voilà. Donc ça, c'est quand même une grande spécificité et ça, c'est tout à fait remarquable. Par contre, effectivement, comme le disait Nicolas Autier, même si on part de plusieurs millions de Français, sans donner de chiffres exacts, qui ont des douleurs chroniques, et là, on suggérait à peu près 10 millions même qui ont des douleurs chroniques sévères, les structures, elles accueillent à peu près 300 à 400 000 patients. Donc forcément, on est très loin du compte.
Ah oui,
alors,
très loin du compte.
C'est pour ça que les médecins traitants et les spécialistes aussi ont un rôle très important à jouer de diagnostic.
Mais les médecins traitants, ils y pensent à ces centres de la
douleur ?
Alors,
en tout cas, ils doivent au moins déjà peut-être prendre en charge en premier lieu ces patients-là, parce que c'est quand même eux qui sont en première ligne, et donc avoir quelques bases. On apprend d'ailleurs davantage aux étudiants en médecine à gérer la douleur qu'avant. Il y a même un meilleur enseignement qu'avant.
Et effectivement, juste catastrophique. C'était alors, quelques heures.
Oui, c'est quelques heures. Enfin, c'est mieux qu'avant. Hein. Avant, c'était rien. Hein. Moi, quand j'ai fait médecine, il n'y avait rien. Hein. Rien, je dis bien rien. Donc, ça s'est amélioré. On est parti de zéro. C'est pas encore parfait, mais il y a quand même
un
enseignement de la douleur et des soins palliatifs qui est fait à l'hôpital, qui est fait aussi à la faculté. C'est loin d'être parfait, mais c'est mieux que rien. Et les structures douleurs chroniques ne peuvent qu'accueillir que les patients, je dirais, en deuxième ou troisième ligne. On ne peut pas être en première ligne pour prendre en charge tous ces patients.
Bonsoir Gérald.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Bonsoir professeur. Voilà, vous parliez tout de suite des centres antidouleurs. Moi, étant sur Rouen, je les ai appelés la semaine dernière, et, il y a 15 jours. C'est un an d'attente.
Ah bah.
J'ai une avie vasculaire de la face. Il m'handicape surtout principalement d'octobre à mars. Je suis en pleine période actuellement. C'est assez sévère. J'en suis de 3 à 10 par jour.
Oula.
Que je maîtrise, entre guillemets, enfin, je suis assisté par le cannabis. Le cannabis me permet d'encaisser la douleur. Ça enlève au moins environ 90% de la douleur.
Il faut dire que c'est une des douleurs les plus violentes qui soit, hein, la givre vasculaire de la face.
J'en suis à 2 TS.
Oui.
J'en suis à 2 TS. Ça fait la dernière à plus de 8 ans maintenant.
De tentative de suicide.
Tentative de suicide, tout à fait. Ouais. J'ai vu la photo de mes enfants et je suis toujours avec vous aujourd'hui. Non, vous n'êtes pas. Mais c'est très compliqué à vivre. C'est insoutenable. L'adrénaline, le stress me permet d'encaisser, me permet de ne pas avoir de crise. Donc, je travaille à hauteur. Je suis voltigeur en nacelle. J'ai des frissons entre guillemets et je carbure comme un malade toute la journée pour avoir le cerveau qui tourne, pour m'éviter de stresser. De me calmer, et le moment où je vais moins faire d'attention, eh bien, j'ai l'algie qui va d'un seul coup débarquer. Et elle est pas gentille.
Ah bah oui, j'imagine, mais tenez bon surtout, Gérald, et merci d'avoir témoigné si ça peut vous aider. Nadine Attal.
Alors, merci pour ce témoignage qui est un peu qui est alarmant, effectivement, parce que, moi je suis neurologue, l'algie vasculaire de la face, c'est une pathologie épouvantable. Ça, je reconnais qu'il peut être avec des crises douloureuses qui peuvent être d'une sévérité absolument effroyable.
Insoutenable,
mais,
vraiment insoutenable.
Mais, théoriquement, ça se prend en charge de façon tout à fait correcte. Il y a des algorithmes thérapeutiques qui existent. Par contre, alors, je suis un peu étonnée de ce que vous dites de Rouen parce que je les connais, ils sont très bien. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de neurologues, mais en tout cas, ils sont très bien. Ce qu'il faut, c'est consulter des neurologues parce que, pour le coup, c'est une pathologie douloureuse, mais qui est aussi bien connue des neurologues. Et notamment certains neurologues spécialisés, mais en fait tous connaissent à peu près. Il y a aussi une très bonne structure, je me permets de vous le dire, à la Riboisière, qui est une structure douleur chronique et aussi céphalée. Il y a une prise en charge des céphalées. Donc, si vous avez des difficultés, il y a des gens très compétents, mais c'est peut-être bon, je les connais sur la région parisienne, il y en a sûrement aussi à Rouen, hein, il y a des très bons neurologues qui normalement peuvent vous aider à prendre en charge, il y a des traitements spécifiques, hein, pharmacologiques notamment, pour ce type de pathologie bien particulière, assez rare, et qui est d'ailleurs prédominante chez l'homme. Hein. C'est une pathologie, une des rares douleurs, qui est plus fréquente chez l'homme que chez la femme.
On parle du cannabis thérapeutique, professeur Autier, je sais que c'est l'un de vos combats.
Oui, si vous voulez, bien sûr, on peut en parler. Je ne sais pas si c'est un combat, mais en tout cas, on essaie de faire avancer cette question-là et d'élargir le panel des thérapeutiques en proposant peut-être des médicaments à base de cannabis qui sont en cours d'expérimentation en France.
Et qui, donnent de bons résultats ?
On donnait, alors il n'y a rien de miraculeux, hein, voilà, mais ça a permis à des patients qui étaient en situation réfractaire, c'est-à-dire d'impasse thérapeutique, il n'y a plus rien qui ne fonctionnait, ça a permis à 25 à 30% d'entre eux d'avoir une amélioration de leur qualité de vie, parce que finalement dans la douleur chronique, l'objectif principal finalement, c'est pas tant de diminuer la douleur que d'améliorer la qualité de vie et de diminuer le handicap fonctionnel lié à cette douleur.
Oui.
Donc oui, il y a des résultats qui étaient intéressants dans la douleur neuropathique, puisque c'était l'indication principale, puisqu'on parle de douleur, et puis les douleurs associées aux contractions musculaire anormal, notamment dans la sclérose en plaques. Donc, il y a des résultats intéressants et effectivement, le processus est toujours en cours, on va dire, pour l'autorisation de ces médicaments. Il y a un décret qui est prêt à être publié, mais il faut que la ministre de la Santé le décide pour pouvoir donner des autorisations de ces médicaments. Et ensuite, en début d'année 2026, la Haute Autorité de Santé va donner un avis et ça aura un impact sur, on va dire, le prix et le potentiel ou pas remboursement de ces médicaments.
Absolument. On va prendre un dernier appel avant de clore cette émission. Je voulais qu'on discute un peu avec Anaëlle. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là.
Avec plaisir. Donc moi, je voulais vous parler de mon rôle. Moi, je suis patiente partenaire. Ça veut dire que je vis avec des douleurs chroniques et que j'utilise cette expérience et j'ai été formée pour utiliser cette expérience pour aider les autres patients sur leur chemin avec la douleur et puis aussi pour aider les professionnels de santé à mieux comprendre et à mieux communiquer avec les patients qui ont des douleurs chroniques. Et moi, un des points communs que je vois dans les témoignages que je rencontre des patients, que je rencontre en atelier, notamment au travers de notre association Les Algonautes, c'est vraiment le fait que la douleur, c'est très stigmatisant en fait aujourd'hui dans notre société. On l'a entendu dans les témoignages ce soir, il y a beaucoup de phrases courantes qu'on entend, tu t'écoutes trop, tu te plains trop, c'est dans ta tête.
C'est parce que t'es une femme,
C'est parce que t'es une femme, etc. On en a entendu des belles ce soir, mais qui sont malheureusement courantes. Et donc vraiment, je trouve que c'est super de pouvoir parler de ce sujet sur une grande radio, parce que je pense que c'est important aussi que tout le monde se rende compte que la douleur, ça peut toucher tout le monde. On le voit aujourd'hui avec ces chiffres. Et que c'est important de faire attention, car comme on l'a évoqué, c'est invisible.
Et il faut en parler, et c'est ce que vous faites, Anaëlle, en fait. Votre rôle à vous, c'est d'en parler auprès des autres patients.
Tout à fait, parce qu'un des leviers, je pense que vos invités pourront le confirmer, mais un des leviers qui est très très important dans le parcours, c'est déjà de comprendre. De comprendre ce qu'est la douleur et comment elle se chronicise et quels sont les enjeux en fait dans la chronicité pour pouvoir être sur un chemin de mieux vivre avec, comme on l'a évoqué.
Absolument.
Et de se prendre en main comme ça notre parcours de santé.
Merci beaucoup, merci infiniment d'avoir témoigné, Anaëlle. Et on arrive à la fin de cette émission. La comprendre, cette douleur, on va rester là-dessus parce que je crois que c'est ça finalement le message de cette émission, Nadine Attal.
Tout à fait, mais je remercie aussi ce témoignage parce qu'effectivement, nous connaissons les patients partenaires qui nous aident énormément. Il y a un certain nombre de patients qui sont partenaires. Il y a aussi, je voudrais quand même souligner, le rôle des associations de patients douloureux. Il y en a, par exemple, en fibromyalgie, il y a des associations de patients qui sont aussi très utiles.
Merci, merci à vous tous. Merci Nadine Attal. Merci professeur Autier. France Inter, il est 20h.